Alors la semaine dernière, nous sommes restés perdus au milieu du premier chapitre. Peut-être si vous avez quelques questions de vocabulaire, de compréhension. Pas de questions pour aujourd'hui. Oui. Alors, on peut survoler un peu plus rapidement le premier chapitre. Pendant que vous regardiez quelques images du film la semaine dernière, j'avais écrit au tableau les différentes parties du point de vue de l'histoire qui compose déjà le premier chapitre. Donc, en lisant, vous avez pu remarquer que on commence par Gabriel qui attend à la gare d'Austerlitz avec les problèmes qu'il a avec ses voisins. Ensuite, l'arrivée du train de Jeanne et de Zazie, donc la rencontre, la première rencontre des personnages. Ensuite, ils prennent le taxi parce que le métro est en grève. Et Gabriel a donc demandé à un ami à lui, qui s'appelle Charles, de venir les chercher. Et donc, à l'extérieur de la gare d'Austerlitz, Charles attend dans son taxi, et ce qui donne le jeu de mots, le calembour, hein, Charles attend. Cette partie, donc en taxi, est en fait la plus longue du premier chapitre. Tous les lecteurs sont très impressionnés, très marqués par les premiers mots, par la première scène dans la gare, mais en fait, dans ce premier chapitre, il y a beaucoup plus de temps passé dans le taxi à traverser Paris. Alors ce thème de la traversée de Paris ou de la promenade dans Paris va bien sûr revenir plusieurs fois dans le livre. Paris est en quelque sorte un personnage du livre Zazie dans le métro. Et un personnage un peu bizarre, un peu capricieux, c'est-à-dire aussi un personnage difficile à connaître et d'ailleurs mal connu. Alors, bonjour. Ça commence lorsque Gabriel et Charles veulent montrer des monuments, désigner des monuments pendant qu'ils passent en taxi. Alors on dit, voilà, ça c'est la place de la Concorde, ça c'est les Invalides, mais en fait, ça ne correspond pas du tout. Et dans le film de Louis Malle, c'est encore plus comique, un peu à la façon de Chaplin, donc on dit en français chaplinesque. Il passe plusieurs fois devant la même église et à chaque fois, Gabriel dit que c'est un monument différent. Et évidemment, Zazie d'ailleurs ne s'intéresse pas du tout à ces monuments, à cette traversée de Paris en taxi, parce que elle est frustrée de ne pas avoir pu prendre le métro. Donc cette traversée de Paris en taxi est évidemment amusante, mais en même temps un peu disturbante pour les lecteurs, pour tout le monde. On se dit, mais quelle est cette façon de voir et de traverser Paris un peu, finalement, un peu cavalière. Cavalière, vous connaissez le mot cavalière ? Cavalier, cavalière. On utilise ce mot pour le dessin de la perspective, la perspective des maisons, des rues, des villes. Ça fait partie de notre habitude de représentation. la perspective cavalière. Et on utilise également ce mot pour dire que quelqu'un fait quelque chose sans faire tellement attention, sans être très attentionné, attentif. Au lieu de donner sa meishi avec deux mains très poliment, comme on doit faire au Japon, si on donne sa meishi comme ça, tenez, quelque chose d'un peu cavalier, d'un peu trop léger, et qui peut être un peu méprisant, compris comme méprisant. Alors je crois qu'il y a peut-être une façon de se moquer de la ville de Paris. Se moquer de la ville de Paris au moment où, on est dans les années 1950, la fin des années 1950, Paris est en train de devenir une grande capitale et une grande destination touristique, qu'elle est maintenant, évidemment toujours. La France est, je crois, le premier pays en nombre de touristes accueillis chaque année, et la ville de Paris, certainement une des villes du monde qui accueille le plus de touristes. Bon. Et ce mouvement a certainement dû commencer dans les années 50, avec ce qu'on peut appeler le début du tourisme de masse. Avant la Deuxième Guerre mondiale, le tourisme existait, disons depuis le 19e siècle, mais c'était un tourisme de luxe, de gens qui ont les moyens, qui n'est pas concentré sur un lieu ou sur une période, de passage. Des Anglais, par exemple, qui avaient en fait un peu inventé le système, le concept du tourisme. Bien sûr, la transformation de la société française a commencé dans le domaine du tourisme en 1936 avec la grande loi sur les congés payés. Les congés payés, c'est-à-dire le droit à des vacances payées, c'est-à-dire pendant qu'on est en vacances, on reçoit un salaire, et qui était d'abord de 2 semaines, je crois, en 1936, et qui est progressivement passé à 3, 4, et puis maintenant 5 semaines, et quelques suppléments possibles. En France, évidemment, puisque au Japon, la loi sur les congés payés, je ne sais pas à combien elle est limitée, mais c'est une 12aine de jours par an, et on sait que la plupart des Japonais ne les prennent pas, effectivement, pour des raisons autres que la loi. Bref, Paris commence à devenir une capitale touristique, et il y a certainement, dans les années 50, beaucoup de publicité, beaucoup de guides et d'informations. Et Raymond Queneau veut se moquer un peu de ce nouveau discours, nouveau type de discours qu'on trouve partout. Donc il traverse Paris. La dernière partie du chapitre 1, c'est bien sûr lorsqu'ils sont arrêtés pour prendre l'apéritif dans un café avec... la première demande de Zazie pour avoir du caco-calo, où bien sûr vous avez reconnu le Coca-Cola, et une façon très claire de désigner le Coca-Cola, et en même temps pour Queneau, le moyen peut-être d'éviter d'avoir des problèmes avec la marque américaine, puisque vous savez que parfois, lorsqu'on utilise des noms de marques dans un livre, il arrive que les marques protestent. Surtout si l'utilisation est assez négative, assez critique. Alors bon, il y a eu d'autres problèmes, mais plutôt après Queneau. Je crois que dans les années 50, il n'y avait pas encore ce genre de procès. Alors, cette histoire qui commence assez simplement est bien sûr accompagnée de tout le langage, de toutes les paroles qui sont bien sûr les plus intéressantes. Peut-être même que, en tant que lecteur, vous ou moi, ne faisons pas beaucoup attention à ce qui se passe, où ça se passe, quand ça se passe, tellement nous sommes en quelque sorte étonnés, hein, absorbés par les paroles, par la qualité, le côté amusant des paroles. Alors les paroles sont surtout celles des personnages, bien sûr, Zazie, Gabriel, etc. Mais, comme on a dit la semaine dernière, ça peut être aussi les commentaires du narrateur. Un narrateur qui a pris de grandes libertés avec le langage, un peu comme les personnages eux-mêmes. Par exemple, pour vous en donner un dernier exemple sur le chapitre 1 peut-être, entre la page 11 et la page 12, donc en bas de la page 11, le commentaire commence à propos de Charles qui attend dans son taxi. Charles effectivement attendait en lisant dans une feuille hebdomadaire la chronique des cœurs saignants. Il cherchait, et ça faisait des années qu'il cherchait, une entrelardée à laquelle il puisse faire don des 45 cerises de son printemps. Mais les selles qui, comme ça, dans cette gazette, se plaignaient, il les trouvait toujours soit trop dindes, soit trop tartes, perfides ou sournoises. Il flairait la paille dans les poutrelles des lamentations et découvrait la vache en puissance dans la poupée la plus meurtrie. Alors ces paroles sont celles du narrateur qui utilise à la fois des mots vulgaires, des expressions vulgaires ou métaphoriques ou vaguement poétiques, mais d'une façon un peu comique tout de même. Alors, par exemple, hein, dans la première phrase, la chronique des cœurs saignants, la chronique des cœurs saignants, vous avez une petite note d'ailleurs, pour désigner le courrier du cœur, c'est-à-dire dans un journal, une page qui est réservée à des lettres de lecteurs, de lectrices, ou des, maintenant on appelle ça des petites annonces, c'est-à-dire des gens qui proposent, hein, ou qui cherchent quelqu'un. Alors, cœur saignant est bien sûr une exagération assez terrible, mais comme si le cœur saignait de tristesse, de désir pour une personne recherchée, d'une façon évidemment très exagérée. En haut de la page 12, on a une très belle expression métaphorique. Charles voulait faire don, hein, c'est-à-dire donner sa personne, hein, donner son corps, se passionner pour quelqu'un, et sous la forme de faire don des 45 cerises de son printemps. Alors ça veut dire qu'il a 45 ans, ça c'est assez clair. Ces 45 ans sont pour lui encore une sorte de jeunesse, donc printemps. Et comme on dit dans l'expression cerise sur le gâteau, cerise sur le gâteau, ça veut dire le petit supplément de qualité que l'on met sur quelque chose comme un gâteau. Donc, vous faites cadeau d'un gâteau, c'est déjà très bien, c'est très bon un gâteau, mais cerise sur le gâteau, hein, c'est le petit plus, le petit service, hein, qui fait qu'on est très content. Alors ça donne cette expression très belle de 45 cerises de son printemps. Évidemment, ça fait un contraste, hein, la beauté de cette expression, dans un sens, amusante, mais très jolie, contraste avec les considérations sur les femmes, qui sont juste après. Elles sont toujours soit trop dindes, soit trop tartes. Alors, c'est assez difficile de définir ces mots, et il est d'ailleurs possible que, entre 1959 où Queneau utilise ces mots, et aujourd'hui, où on les utilise encore, il est possible que le sens ait un peu changé. Mais j'ai l'impression, enfin dans mon impression, disons, du français familier, dinde, ça veut dire plutôt bête, pas très intelligente, hein, donc un peu comme une dinde qui ne comprend pas du tout la situation. Et tarte, ça serait plutôt pas jolie, pas jolie, pas belle. Donc ça, je crois qu'on dit encore aujourd'hui, elle est tarte, toujours pour une femme, on ne dit pas pour un homme. Pour un homme, on ne dit pas il est tarte, on dit il est moche. Pour une femme aussi, on peut dire elle est moche, mais elle est tarte. Et comme si ces mots n'étaient pas très clairs ou bien pas suffisants, on ajoute encore perfide ou sournoise, qui ne sont pas des mots familiers, hein, qui sont des mots tout à fait choisis, mais évidemment pas à l'avantage des femmes, hein, parce que perfide, ça veut dire quelqu'un qui ment ou qui veut faire le mal, qui veut faire du mal de façon cachée, et sournoise, c'est quelqu'un qui ment aussi et qui se cache pour faire quelque chose. Et on arrive à cette expression, bonjour, cette expression encore plus étonnante, ou comment dire, dans laquelle Raymond Queneau a mélangé plusieurs variations, on va dire. Mais vous avez une explication, hein, dans la note numéro 2. Donc, il flairait la paille dans les poutrelles des lamentations. C'est un jeu sur la locution qui est donc tirée de l'Évangile, hein, du texte de la Bible. Voir la paille dans l'œil d'autrui et ne pas voir la poutre dans le sien. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire une comparaison, une sorte de comparaison entre des défauts. La paille dans l'œil du voisin, c'est un petit défaut. Et on voit ce petit défaut, on le critique, mais on ne voit pas la poutre qui est dans son œil à soi. C'est-à-dire, la poutre, c'est quelque chose d'énorme. Hein. La paille, c'est minuscule. La poutre, c'est énorme. Donc, on voit bien le petit défaut du voisin, mais on ne voit pas son propre gros défaut. Donc, une façon de se mentir ou de se tromper. Alors, cette expression est un peu transformée ici, et donc Charles voyait la paille dans les poutrelles des lamentations. La paille et la poutre, hein, on retrouve bien les deux termes de la comparaison biblique, mais un petit peu mélangés, et on ne comprend pas tellement ce qu'il veut dire. Hein, il n'y a pas beaucoup de sens. Alors cette expression apparaît un peu comme une sorte de parole de Charles lui-même, hein, comme si Charles parlait ou se parlait. Et la phrase continue, comme en quelque sorte pour expliquer cette expression un peu finalement ratée du point de vue du sens, même si elle est très amusante, découvrait la vache en puissance dans la poupée la plus meurtrie. Là encore, on a deux termes qui sont opposés par la comparaison, la vache et la poupée. Bien sûr, la poupée la plus meurtrie, ce serait une belle jeune fille qui a l'air de souffrir de sa passion, de sa tristesse d'amour. Et cette belle jeune femme est en même temps déjà une vache en puissance. Une vache en puissance, c'est-à-dire qu'elle va devenir, hein, elle peut devenir, hein, en puissance, c'est ce qui peut arriver plus tard. Une vache. Alors qu'est-ce que c'est une vache? Là encore, familier pour une femme, ça veut dire une femme dure, une femme méchante, une femme qui fait souffrir son amant ou son mari. ou ses amants. Et donc on dit « Ah la vache !» Ça aussi, ça existe encore aujourd'hui. Ou bien on dit « C'est vache !» Ou encore une expression qui se trouvait déjà dans des chansons des années 50, « L'amour vache !» L'amour vache, c'est l'amour, c'est quand on fait l'amour et qu'on frappe son partenaire. Alors on dit que il y aurait, je vais utiliser le conditionnel, il y aurait des femmes qui aimeraient bien être battues pendant qu'elles font l'amour, ou bien des hommes qui aimeraient bien être fouettés. Alors, ma foi, c'est pas nouveau, hein, quand on lit Proust, on trouve aussi des scènes de fouet et de sadomasochisme. C'est pas nouveau, et puis on peut remonter à d'autres périodes de la littérature ou de la peinture, sur des vases anciens aussi, on trouve des gens qui participent à des scènes sadomaso. Et quand même, il y avait une chanson des années 50 qui était « Fais-moi mal, Johnny, 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 fais-moi mal, j'aime l'amour qui fait boum ». Ça vous dit rien, ça? Hein, c'était une chanson amusante. Bon, voilà donc le thème de l'amour vache. Mais là, je crois que c'est pas dans le sens de faire l'amour, hein, c'est-à-dire de jouir avec du sadomasochisme. C'est plutôt dans le sens de souffrir, faire souffrir, peut-être tromper son amant. Donc Charles, finalement, n'arrive pas à trouver une maîtresse. Alors, on monte dans la voiture et Zazie, évidemment, est contrariée, donc elle ne trouve pas la voiture belle. On passe à la page 13. Pendant que Gabriel ou Charles essayent de valoriser Paris, « Ah, c'est beau, etc., etc. », Zazie répond, en haut de la page 13, « Moi, ce que j'aurais voulu, c'est aller dans le métro. » « Oh, le métro, mais le voilà !» Et du doigt, il désigne quelque chose en l'air. Zazie fronce le sourcil. « Esméfi !»« Ça va, Esméfi ?» Facile à comprendre, hein. Elle se méfie. Pourquoi se méfie-t-elle? Pourquoi est-ce qu'elle se méfie? Eh bien, parce que le métro, qu'elle répète, « Le métro, ajoute-t-elle avec mépris, le métro, c'est sous terre, le métro. » Non mais. Ça veut dire que l'utilisation même du mot métro, ou bien juste après quand Gabriel répond « Celui-là, dit Gabriel, c'est l'aérien, hein, c'est-à-dire métro aérien. » En effet, tous les Parisiens ont l'habitude de dire « le métro aérien », c'est-à-dire les parties du métro qui sont extérieures, on les appelle le métro aérien. Ce qui veut bien dire que le métro, le mot lui-même, ça veut dire en dessous, hein, puisqu'on est obligé d'utiliser un autre adjectif pour dire quand c'est pas en dessous. Donc Zazie a tout à fait raison. Le métro, c'est en dessous, et l'autre, c'est l'aérien, mais ça l'intéresse pas. Alors Gabriel explique, hein, je vais t'expliquer, hein, à la façon de Queneau. Quelquefois, il sort de terre. Et ensuite, il y re-rentre. Bon, là aussi, avec des mots nouveaux, des mots pas corrects. Alors ensuite, on passe peut-être devant le Panthéon, hein, mais ça m'étonnerait. Et puis, donc, il y a une dispute entre Gabriel et Charles, qui ne sont pas d'accord, hein, sur le fait que ça soit le Panthéon. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'attacher aux détails, hein, de ces lieux nommés, mais plutôt au sens général de ces erreurs, c'est-à-dire que des Parisiens, comme Charles et Gabriel, ne connaissent pas Paris. Et c'est une généralité, une banalité même. La plupart des Parisiens ne sont pas tous montés à la Tour Eiffel ou à l'Arc de Triomphe, n'ont pas tous pris les bateaux-mouches sur la Seine, et ce sont souvent des amis de province, ou des touristes qui leur disent « Ah, mais ouais, ah pardon, je suis jamais allé. » Ce qui est d'ailleurs mon cas pour certains monuments. Je ne suis pas monté à l'Arc de Triomphe. En revanche, je suis allé plusieurs fois à la Tour Eiffel et je trouve ça très bien. Voilà. Alors, on a vu des mots, disons des mots du langage vulgaire ou familier, mais on va trouver aussi ce qu'on peut appeler précisément des gros mots. Des gros mots, c'est-à-dire des mots qui sont en principe interdits, interdits dans la littérature, en général, d'une façon générale, ou bien interdits, évidemment, dans la bouche des enfants. Alors, ça donne, en bas de la page 13, « Les passants, réplique Charles, c'est tous des cons. » Bon, tout le monde connaît le mot, je pense, pas besoin d'explication. Et puis, on verra à la page 14, par exemple, aux deux tiers de la page 14, hein, cette réponse superbe de Zazie, hein, on dirait au tennis, on dirait ace, hein, c'est-à-dire le coup très très fort, hein, qui passe comme ça, hein, ace, this. À propos de Napoléon, on lui propose bien sûr, hein, de visiter, de voir, etc. Si ça te plaît de voir vraiment les Invalides et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul, réplique Zazie, il m'intéresse pas du tout cet enflé avec son chapeau à la con. Alors, en une seule phrase, hein, Zazie a utilisé deux gros mots et un mot très mal poli, donc mon cul, évidemment, et puis son chapeau à la con. Ça veut dire que Zazie connaît quand même l'image de Napoléon, hein, elle sait que Napoléon a un chapeau un peu bizarre, hein, donc ce qu'elle appelle à la con, dans le sens qui ne sert à rien, hein, ou dont on ne connaît pas l'usage. Et en même temps, cette enflée. Alors, enflée n'est pas à proprement parler un gros mot, mais disons assez mal poli et évidemment très familier. Enfler, c'est du verbe enfler, qui veut dire donc gonfler. Hein, quand vous vous cognez la tête, vous allez avoir une bosse, c'est-à-dire que ça va gonfler ou enfler. On peut utiliser l'un ou l'autre des deux mots. Ça veut dire qu'elle considère Napoléon comme quelqu'un qui est plus gros que sa réalité. Ce qui pourrait être une image pour quelqu'un d'un peu prétentieux, hein, qui essaye de paraître plus qu'il n'est en réalité. C'est vrai que Napoléon n'était pas très grand, hein, on dit, c'est pas un grand, fort homme, bon. Mais aussi du point de vue historique, est-ce que le rôle de Napoléon est tellement, tellement, tellement important? Pourquoi dans le monde entier, tous les gens qui font un peu d'études connaissent Napoléon? Bah, il y a peut-être d'autres personnages plus importants à connaître. Donc, Napoléon mon cul. Cette expression Napoléon mon cul a besoin d'être expliquée un peu plus parce que ça va devenir une sorte de leitmotiv. Je pense que vous connaissez le mot d'origine russe, hein, leitmotiv. Bien. Donc, leitmotiv, ça vient du russe, et ça veut dire donc un motif, hein, un élément graphique ou sonore, hein, ou sémantique qui revient plusieurs fois et qui forme une sorte d'habitude, hein, à laquelle on va répondre par la même réaction. Lorsque Zazie dit Napoléon mon cul, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Alors, si on voulait l'écrire plus précisément, il faudrait utiliser une virgule, hein, c'est-à-dire Napoléon, ou peut-être même un point d'interrogation, et on répond par mon cul. Alors, sous cette forme, on peut essayer de comprendre cette expression. Quelque chose, mon cul. On pose une question à propos de Napoléon. Est-ce que vous aimez Napoléon? Est-ce que Napoléon est important? Etc. Réponse, mon cul. C'est-à-dire, je m'en moque. je considère ça comme quelque chose sans importance, quelque chose négligeable. Alors je ne sais pas quelle est la valeur hein, sémantique pour vous en japonais de dire une expression comme ça et puis de montrer hein, son derrière. Mais en français, c'est tout à fait courant, hein, même si ce n'est pas très beau, ça arrive comme ça. Évidemment, les adultes connaissent bien cette expression, cette façon de rabaisser hein, quelque chose en le comparant ou en le considérant comme négligeable à la façon de son derrière. Mais dans la bouche d'une petite fille et répétée hein, de façon assez régulière, en fait, ça va devenir une épidémie. C'est-à-dire que les autres personnages vont, à leur tour, utiliser cette expression de Zazie, peut-être parce que ça les amuse, ou parce que ça les choque. Hein, on verra dans le chapitre 2, le personnage Turandot, qui porte le nom aussi de l'opéra, hein, Turandot, va utiliser cette expression, mais évidemment en n'étant pas du tout content qu'une enfant l'utilise. On verra après quel est le problème de Turandot, c'est une autre histoire. Voilà pour cette expression, donc à chaque fois qu'elle va se représenter, soit dans la bouche de Zazie, soit des autres personnages, ça signifiera toujours hein, une façon de se moquer de quelque chose, de rabaisser la valeur de la chose désignée, hein, c'est-à-dire de la chose qui précède mon cul dans l'expression. Queneau, évidemment, aime beaucoup jouer avec le langage, vous l'avez déjà remarqué, et ça va continuer toujours, mais il joue également avec d'autres expressions et avec des morceaux de la littérature ou de l'histoire. Par exemple, en bas de la page 15, à propos des bêtises hein, que disent Gabriel et Charles dans la voiture et des erreurs qu'ils font en parlant de Paris, Zazie demande à Gabriel, en bas de la page, hein, « Dis donc, tonton, demande Zazie, quand tu déconnes comme ça, tu le fais exprès ou c'est sans le vouloir ?» Alors, déconner ici, ça veut dire des bêtises, hein, dire n'importe quoi. Et Zazie demande « Est-ce qu'il le fait exprès, c'est-à-dire pour s'amuser, pour jouer, ou bien est-ce qu'il est vraiment bête, hein, c'est-à-dire sans le vouloir, sans savoir qu'il dit des bêtises, dans ce cas-là, il est vraiment bête. » Réponse de Gabriel, qui n'est pas parmi les deux possibilités que donne Zazie, « C'est pour te faire rire, mon enfant, » répond Gabriel. Cette expression, comme vous l'avez indiqué dans la note numéro 2, est une allusion et donc on retient le mot allusion hein, comme un des procédés permanents de Queneau pour renvoyer le lecteur à d'autres histoires, à d'autres livres, à d'autres personnages. Allusion évidemment ici au Petit Chaperon Rouge. Tout le monde connaît le Petit Chaperon Rouge. Lorsque le Petit Chaperon Rouge est arrivé chez sa grand-mère, qui a déjà été mangée par le loup, et qu'elle se couche dans le lit, elle remarque les poils et différentes choses de la grand-mère, entre guillemets, et à chaque fois la réponse hein, du loup, c'est pour, suivi de « mon enfant ». Voilà. Et on connaît évidemment cette progression, hein, parce que ça forme une progression jusqu'au moment où le loup saute sur la petite fille et la dévore. À la page 16, on peut regarder quelques paroles de Gabriel qui montrent tout de même une différence importante entre Gabriel et les autres personnages. Je pense que Gabriel est traité d'une façon différente de tous les autres personnages et même de Zazie. Dans un sens, Zazie n'a pas beaucoup de psychologie. Elle a de la parole, elle a de la répartie, elle répond tout de suite. Et un des seuls personnages, peut-être le seul personnage, qui a une sorte de psychologie vraiment plus développée, plus approfondie, c'est Gabriel. En haut de la page 16, on parle de la vérité, dit Charles, que tantôt il le fait exprès et tantôt pas. Et là, réponse étonnante de Gabriel, « La vérité !» s'écrie Gabriel. « Comme si tu savais ce que c'est !»« Comme si quelqu'un au monde savait ce que c'est !» Tout ça, alors geste, hein, pour montrer tout ça, hein, c'est-à-dire le Paris, le monde entier, tout ça, c'est du bidon. Le Panthéon, les Invalides, la caserne de Reuilly, le tabac du coin, tout. Oui, du bidon. Il ajoute, accablé, « Ah là là, quelle misère !» Quelle est d'un seul coup hein, cette réaction tout à fait imprévue de Gabriel. C'est une réaction un petit peu de pessimisme ou de nihilisme. Hein, je ne sais pas si vous connaissez ces mots. Pessimisme, nihilisme, ou bien l'expression d'un personnage déprimé, hein, une sorte de dépression à l'intérieur de la psychologie, et qui va nier, hein, refuser la valeur à toutes les choses dans leur ensemble. Donc c'est du bidon. Du bidon, ça veut dire quelque chose qui n'a pas de valeur, quelque chose qui n'est pas vrai, ou qui n'est pas considérable, admirable, etc. Alors Charles ne sait pas quoi répondre, hein, et donc il lui propose de prendre l'apéro, ce qui est peut-être un moyen de récupérer un peu la forme. Voilà, alors, au milieu de la page 16, qu'est-ce que tu t'imagines ? On l'avait déjà vu, hein, comme une allusion à la chanson déjà connue. Et on arrive à la dernière partie du chapitre, en haut de la page 17. Tout le monde se retrouve autour d'une table. Donc on est sorti du taxi. À propos du caco-calo que demande Zazie, on le retrouvera plus tard, là aussi c'est une sorte de motif hein, qui va revenir, par exemple à la page 45, regardez à la page 45, donc c'est ce qu'on verra dans deux semaines, dans la semaine prochaine, le chapitre 4, vers le bas de la page, aux deux tiers à peu près, profitant de cet avantage, le monsieur lui offrit un caco-calo, là, au premier bistrot venu, en sous-entendant, en plein jour, devant tout le monde, etc. Hein, donc le thème du caco-calo va revenir comme un moyen de séduire Zazie. Hein, Zazie exprime ici au début son souhait, son désir, et après ça pourra être utilisé pour l'attirer, justement. Alors, on verra ça plus tard. Alors, comme il n'y a pas de caco-calo, vers le bas de la page 17, Gabriel lui propose un demi-panaché. Un demi-panaché, Zazie, ça ne te dirait rien ? C'est un caco-calo que je veux et pas autre chose. Mais est-ce que c'est normal pour un adulte comme Gabriel de proposer un demi-panaché à une enfant? Vous savez qu'un demi-panaché, c'est une boisson composée à moitié de limonade et à moitié de bière, c'est-à-dire de proposer de l'alcool. Et là aussi, c'est un thème qui reviendra, on retrouvera, je crois, à la page 50, où on va s'amuser beaucoup hein, avec ce passage des pages 50-55, quand Zazie raconte son histoire familiale et elle boit son demi-panaché, en bas de la page 50. Et puis un petit peu plus tard, juste après, hein, dans la même conversation avec ce monsieur, c'est-à-dire... un petit peu plus tard, elle va commander une bière qu'elle va boire aussi entièrement. Alors bon, c'est quand même une petite fille de 13 ans. Hein. Bon, l'alcool aux enfants. On verra bientôt, d'ailleurs très bientôt, que divers problèmes du traitement des enfants constituent une partie importante et sérieuse, tout à fait sérieuse, du livre de Raymond Queneau. On arrive à la fin du premier chapitre, à la page 18, puisque maintenant Zazie a obtenu son caco-calo à la boutique voisine. Eh bien, Gabriel, un peu philosophe, hein, dans un sens, répond « Là, tu vois, dit Gabriel à son copain, c'était pas difficile. Les enfants, suffit de les comprendre. Suffit, hein, il suffit de, il n'y a qu'à les comprendre. » Ce qui est une façon de conclure le premier chapitre, même si, en tant que lecteur, je ne suis pas sûr que Gabriel ait vraiment bien compris Zazie. Mais Gabriel en a l'impression. On peut passer au chapitre 2, sauf si vous avez des questions sur le chapitre 1. Alors, à propos du chapitre 2, on va le découper aussi, comme tout à l'heure, en différentes parties pour suivre quand même l'histoire. Hein, même si on doit s'attacher beaucoup à des questions de langage, il est quand même bien qu'on suive l'histoire. Alors dans ce chapitre 2, on arrive devant chez Gabriel. Hein, c'est la première page, c'est-à-dire la page 19. C'est là, dit Gabriel, et Zazie examine la maison. Ensuite, Charles dit qu'il descend chez Turandot. Pour l'instant, on ne connaît pas ce personnage, on ne sait pas ce que ça veut dire, on le découvrira après. On peut remarquer d'ailleurs que les personnages ne sont pas présentés, ne sont pas décrits. Pour le lecteur, c'est juste un nom. Il n'y a pas de visage, il n'y a pas de costume. Et c'est quelque chose qui va peut-être se construire petit à petit. On y reviendra plus tard. Aux pages donc 18 à 21, on est avec Charles dans le café avec Turandot et Mado Petit Pied, la serveuse, qui est en même temps l'amoureuse de Charles. Ensuite, page 21 à 24, c'est le dîner chez Gabriel, comme prévu, hein, puisqu'il y avait cette allusion au chapitre 1, jusqu'au moment où Zazie va se coucher. Dans la page 24, ça se situe vers le bas de la page. Elle se leva, Gabriel lui tendit la joue et l'embrassa. « Tu as la peau douce, remarqua-t-elle. » Et Marceline l'accompagne dans sa chambre. Ensuite, page 24-26, Gabriel fait son soin de manucure. Il s'occupe de ses ongles, de ses mains, comme il n'est pas tout à fait courant de le faire pour un homme. ou en tout cas pas habituel de l'écrire dans un livre. En même temps, il discute avec Marceline à propos du lendemain. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qu'on va proposer? La petite Zazie. Et on s'inquiète un peu parce que les enfants se lèvent tôt le matin et Gabriel veut absolument dormir. Ensuite, aux pages 26 et 27, c'est Turandot. On comprend qu'il est le patron du café et en même temps le propriétaire, peut-être de l'immeuble. Et en tant que propriétaire de l'immeuble, il monte chez Gabriel pour protester de la présence d'une petite fille, d'une enfant. On verra pourquoi tout à l'heure. Et puis, le chapitre 2 se termine avec la sortie de Gabriel. Gabriel qui part à son travail. Ce sont les dernières lignes de la page 29. Ce chapitre 2 couvre donc une période de qu'on peut appeler la soirée. Hein, la soirée en famille. Cette soirée peut se décomposer en deux parties, donc chez Turandot, c'est-à-dire en bas, et puis chez Gabriel, c'est-à-dire en haut. En bas, c'est-à-dire à la page 19, on commence avec Charles et Turandot et Mado Petitpied, qui se saluent, et une question, la première question de Turandot, qui dit « C'est elle ?» demanda Turandot. « Exactement, » répondit Charles. « Elle est plus grande que je croyais. Et alors, ça me plaît pas. Je l'ai dit à Gabi, pas d'histoire dans ma maison. » Vous voyez, on ne connaît pas encore Turandot, hein, mais on sait déjà par ce « pas d'histoire dans ma maison », on sait que c'est lui le propriétaire. Et avec cette remarque sur « pas d'histoire dans ma maison », on comprend qu'il s'inquiète de la présence d'une enfant. Pourquoi Turandot peut-il s'inquiéter de la présence d'une enfant dans sa maison? Et on verra tout à l'heure, quand il monte chez Gabriel, qu'il va exprimer d'une façon assez violente cette sorte de refus d'avoir une enfant chez lui. Alors essayons de suivre un peu la trace. À la page 20, vers le milieu de la page, un petit peu au-dessus, c'est Charles qui répond à Mado. Alors tout à l'heure je disais que l'expression « avec mon cul », c'était une épidémie. Ça commence ici. « Monsieur Charles, qu'elle dit, vous êtes un mélancolique. »« Mélancolique mon cul !» réplique Charles. « Eh bien vrai !» s'écria Mado Petitpied. « Vous n'êtes pas poli aujourd'hui. »« Ça me fait marrer !» dit Charles d'un air sinistre. « C'est comme ça qu'elle cause la mouflette. »« Je comprends pas. » dit Turandot, pas à l'aise du tout. « C'est bien simple, » dit Charles. « Elle ne peut pas dire un mot, cette gosse, sans ajouter mon cul après. » « Et elle joint le geste à la parole ?» demanda Turandot. « Pas encore, » répondit gravement Charles, « mais ça viendra. »« Ah non !» gémit Turandot. « Ah ça, non !» Il se prit la tête à deux mains et fit le futile simulacre de se la vouloir arracher. Puis il continua son discours en ces termes. « Merde de merde, je veux pas dans ma maison d'une petite salope qui dise des cochoncetés comme ça. Je vois ça d'ici, elle va pervertir tout le quartier. D'ici 8 jours, elle reste que 2-3 jours, dit Charles. C'est de trop, dit Turandot. En 2-3 jours, elle aura eu le temps de mettre la main dans la braguette de tous les vieux gâteux qui m'honorent de leur clientèle. Je veux pas d'histoire, tu m'entends? Je veux pas d'histoire. Waouh! Quelle sortie, hein, au théâtre, on parle comme ça d'une réplique inattendue. Turandot est donc obsédé par la crainte d'un problème de moralité. Un problème de moralité, alors c'est une obsession assez normale, hein, chez un propriétaire d'immeuble ou d'appartement, ne souhaite pas que l'endroit d'où il est propriétaire soit le lieu d'un crime ou de quelque chose de pervers, hein, où la police va ensuite venir faire son enquête, etc. Mais cette expression révèle surtout dans la personnalité de Turandot une image tout à fait terrible de la petite fille. Au début, quand il dit la première fois « Je veux pas d'histoire dans ma maison », on peut penser qu'il s'inquiète pour la petite fille. C'est-à-dire que les enfants victimes de vices, hein, de perversité, de sévices ou de crimes sexuels de la part d'adultes, c'est pas du tout négligeable. Hein, c'est au contraire quelque chose de très grave et qui, je crois, était peut-être plus courant avant parce que, justement, on n'en parlait pas beaucoup, alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien connu, bien, pourchassé, hein, recherché, chassé, pour être condamné. Donc, ce n'est pas une inquiétude pour la petite fille, mais au contraire, Turandot considère que c'est cette petite fille qui est perverse et vicieuse et en quelque sorte prostituée, hein, déjà à 13 ans, et que c'est elle qui va aller chercher des petits vieux pour les déshonorer et déshonorer la maison de Turandot. Alors je crois que cette image de l'enfant est un des thèmes les plus importants que Queneau souhaite aborder dans son livre, parce que ça revient assez régulièrement dans le livre. On en verra d'autres occasions, d'autres épisodes. Évidemment, je pense que vous serez d'accord pour dire que, en général, ce ne sont pas les enfants qui sont vicieux ou pervers ou prostitués, ou pas à la façon dont les adultes l'imaginent, mais plutôt ce sont des adultes qui prêtent aux enfants cette perversité, ce vice, pour ne pas voir leur propre culpabilité, hein, c'est-à-dire en tant qu'adultes, leur pulsion sexuelle, leur désir sexuel envers des enfants. Il s'agit donc du thème très grave, et beaucoup plus grave actuellement en France, j'ai l'impression, hein, qu'au Japon, où on n'en parle pas trop encore aujourd'hui, de la pédophilie. Alors la pédophilie, évidemment, c'est maintenant un crime, hein, tout à fait connu, écrit dans les textes de loi. Dans les années 50, je ne crois pas. Les enfants étaient des victimes permanentes de la pédophilie et le plus souvent en famille. Parce que lorsqu'on recherche des pervers sexuels, des crimes sexuels qui sont commis par des inconnus qui passent dans le quartier ce jour-là, bon, c'est possible, ça arrive toujours. Mais le plus grand nombre de perversions sexuelles et de crimes sexuels ont lieu dans la famille, avec le père, l'oncle, etc. Plus souvent un homme qu'une femme. Il y a aussi des femmes, bien entendu, mais plus souvent un homme qu'une femme. Alors je pense que de cette façon comique, amusante, joyeuse, que Nau veut quand même dénoncer la généralité sociale et la banalité, en quelque sorte, de la pédophilie. Et en même temps qu'il veut le dénoncer, le montrer, il veut montrer le mécanisme psychologique qui fait que cette pédophilie est généralement acceptée. Il s'agit bien sûr de désigner l'enfant, de désigner la petite fille comme la coupable d'attirer les hommes. C'est un peu ça le problème. Alors, on y reviendra la semaine prochaine avec le chapitre sur la famille, justement, et le père de Zazie qui a été assassiné. Alors, je quitte ce thème, vous y reviendrez si vous le souhaitez par des questions, et je reviens à un point de style très important que l'on peut voir au début du chapitre 2, mais qui est en fait permanent. Vous allez le voir en permanence. Et ce point de style est d'abord quelque chose qui paraît pas correct, pas normal. Je vous lis le début du chapitre 2. « C'est là, dit Gabriel. Zazie examine la maison. Elle ne communique pas ses impressions. « Alors, demanda Gabriel, ça ira ?» Zazie fit un signe qui semblait indiquer qu'elle réservait son opinion. On a donc deux parties de dialogue, un échange de dialogue, qui évidemment sont au présent, et deux phrases, ou deux lignes, si vous voulez, de commentaires. Ces commentaires sont, pour le premier, Zazie examine la maison, elle ne communique pas ses impressions. Deux verbes au présent. Le deuxième commentaire, Zazie fit un signe qui semblait indiquer qu'elle réservait son opinion. Un verbe au passé simple, fit, deux verbes à l'imparfait. Ça veut dire que le commentaire, c'est-à-dire la narration, la narration du narrateur change du présent au passé. Alors, je ne sais pas comment ça se passait dans vos cours de français, mais quand j'étais petit à l'école, on m'a appris, si on commence à raconter une histoire au présent, il faut continuer au présent. Si on commence au passé, on continue au passé. Mais on ne peut pas mélanger les deux. C'est incorrect. C'est une erreur qu'on considère comme une erreur grammaticale. Il faut respecter les temps, accorder les temps, et vous avez sans doute appris ça dans le cours de français, vous aussi. Et c'est une règle très forte, donnée par les instituteurs, les maîtres d'école, les professeurs, comme vraiment impérative. Alors, en fait, Queneau a déjà commencé avant, on ne l'a pas signalé, mais on a déjà eu cette succession présent-passé, et il va continuer tout le temps. Pourquoi Queneau fait ça? Est-ce que c'est seulement pour embêter tout le monde, déranger, gêner tous les gens qui veulent respecter la grammaire ou les codes de la narration, ou bien... Est-ce que Queneau souhaite faire quelque chose avec cette « erreur » entre guillemets? Alors, si j'essaye de, en quelque sorte, de visualiser ou de ressentir un effet, je ne pense pas à l'erreur, simplement, j'essaye de recevoir un effet. Zazie examine la maison. Elle ne communique pas ses impressions. Quel est l'effet du présent ? Bien sûr, c'est un effet de présent, c'est-à-dire de direct, d'être exactement avec elle, et en même temps tout près, collé à elle, à l'action. On voit Zazie comme ça. La suite, Zazie fit un signe qui semblait indiquer qu'elle réservait son opinion. Il y a quelque chose de un petit peu plus distant, un petit peu plus calme, un petit peu moins net. Alors, j'ai tendance à transformer ça en image, un peu comme au cinéma. Et ma sensation à moi, hein, vous verrez, vous, si vous avez une sensation différente, ma sensation à moi, c'est celle du zoom. J'ai l'impression qu'avec le présent, on zoome sur une personne, une action, un moment, et on est exactement dedans, on est collé dessus. Et puis quand on passe au verbe au passé, on a l'impression de tourner, hein, c'est vrai, on tourne le zoom, on s'éloigne un petit peu, ou bien c'est un petit peu plus flou, c'est un petit peu moins net, c'est un petit peu plus loin, une sorte de distance qui se prend comme ça. Alors c'est mon impression, et vous verrez, hein, essayez de ressentir à votre façon cette erreur, donc entre guillemets, de français. Regardez à la page 20, la fin du paragraphe en haut de la page 20 avec Turandot, les verbes sont au passé. Turandot le servit, Charles Éclusat s'essuya. Bon, on a un enchaînement d'actions qui ne sont pas très importantes. Quelqu'un boit son Beaujolais. Bon, et puis il faut regarder vers le haut. Il y a cette petite fenêtre, hein, puisqu'on est un peu au sous-sol, avec une petite fenêtre qui permet de voir les pieds des gens qui passent. Bon, et cet effet assez comique. Si on regarde, avec de la chance, on peut voir un chien complet, un basset. Un chien complet, mais un basset. Hein, c'est-à-dire un chien tout petit, hein, tout bas comme ça. Que les Français appellent souvent une saucisse. Et puis, il y a un perroquet. Bon, tout ça est au passé. Hein, et on arrive à Madoptipier. Madoptipier vint se mettre derrière le comptoir à côté du patron et brise le silence. Brise au présent. On a un effet de zoom directement sur Madoptipier. On entre dans l'action et dans l'action du langage. Là, c'est encore plus clair que tout à l'heure, hein, puisque tout le paragraphe est au passé, il y a au moins 15 verbes, et le dernier, celui qui crée l'enchaînement, est au présent pour... alors c'est soit zoomé, soit accéléré. Hein, c'est un ou l'autre effet sont possibles. Dernière chose à propos de la page 19, le début du chapitre, un élément de société, disons, vers le milieu de la partie écrite. Charles descendit les 5 marches menant du trottoir au café-restaurant La Cave, poussa la porte et s'avança jusqu'au zinc en bois depuis l'occupation. Le zinc en bois depuis l'occupation, il faut comprendre comme l'occupation avec un O majuscule, c'est-à-dire l'occupation allemande, qui porte ce nom avec une majuscule comme une période historique, hein, comme on dit la régence, etc. L'occupation. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant l'occupation ? Eh bien, pour la guerre, pour les besoins de guerre, on a ramassé tous les métaux, toutes les pièces, toutes les parties métalliques qui étaient dans des bâtiments publics et parfois privés pour les utiliser à l'industrie de la guerre. Et en particulier, les dessus de comptoirs de café qui étaient donc en zinc, matière que vous connaissez, ont été enlevés et il reste donc le bois. Mais le mot zinc désignait le comptoir. Et donc on a gardé le mot, parce que le mot on n'a pas besoin de l'enlever, et donc le zinc en bois. Une espèce de contradiction, hein, dans les termes qui vient de l'histoire elle-même. Alors, Apparemment, cette expression amuse beaucoup Queneau et il va la répéter plusieurs fois, le zinc en bois. À la page 21, nous voyons un autre leitmotiv. On a vu un leitmotiv tout à l'heure qui était Napoléon mon cul, hein, ou quelque chose mon cul. Un autre leitmotiv qui va en quelque sorte rythmer de temps en temps le livre Zazie dans le métro, c'est le perroquet. Le perroquet qui répond, le perroquet s'appelle la verdure, et le perroquet répond « tu causes, c'est tout ce que tu sais faire ». En haut de la page 21. C'est la première occurrence, je crois, il n'y en a pas eu d'autre avant, hein. Et c'est la première fois, et bien sûr, à différents moments, tout à fait imprévus et tout à fait amusants ou cocasses, le perroquet va dire « tu causes, c'est tout ce que tu sais faire ». Et d'ailleurs, c'est à peu près tout ce que sait dire hein, le perroquet. Je ne sais pas s'il dit beaucoup de choses, on verra. Ce « tu causes, c'est tout ce que tu sais faire » sert d'ailleurs de point d'articulation entre les deux scènes. Parce que juste après ce « tu causes », il a bien raison, dit Charles, après tout, c'est pas à moi qu'il faut raconter tes histoires, tes histoires. Et la réponse, je l'emmerde, dit Gabriel affectueusement, mais je me demande pourquoi tu as été lui répéter les gros mots de la petite. Alors, on était en bas avec Turandot, Madot Petitpied et Charles, et d'un seul coup on est avec Gabriel. Et le narrateur ne nous a pas dit... Charles sort et monte chez Gabriel, la conversation, etc., commence. Pas du tout. C'est le leitmotiv du perroquet qui sert de séparateur, de séparation entre le café, la cave et l'appartement de Gabriel. Juste après, Charles et Gabriel parlent ensemble et on ne l'a pas vu. Alors au cinéma, on connaît aussi ce procédé, c'est ce qu'on appelle le montage cut, c'est-à-dire une image dans un lieu et sans intermède, on passe tout de suite à un autre lieu. Alors aujourd'hui, on est très habitué, hein, l'image de cinéma est très très rapide, mais dans les années 50, c'était pas encore si clair hein, du point de vue de stylistique hein, du cinéma. Alors, on parle de la nièce mal élevée, hein, de la petite Zazie qui est mal élevée, mais tout le monde est mal élevé, parce que on a vu déjà le narrateur utilise des gros mots, et puis Gabriel aussi. Jusqu'à maintenant, Gabriel était très poli, et d'un seul coup, il dit « je l'emmerde ». Bon, je pense que vous connaissez aussi ce verbe très utile en français. Je l'emmerde, ça veut dire je me moque de lui, hein. Je ne m'intéresse pas, je ne considère pas ce qu'il dit comme quelque chose d'important. Alors il y a une sorte d'opposition tout de même, parce que je l'emmerde est suivi de affectueusement. Affectueusement qui est donc un adverbe plutôt gentil, hein, entre personnes qui s'apprécient, qui s'aiment bien. Alors normalement, entre des personnes qui s'aiment bien, on ne dit pas « je l'emmerde » ou « je t'emmerde ». Donc bon, il y a une sorte de contraste comme ça. Je crois que Gabriel et Turandot ont l'habitude de s'échanger de façon assez forte, hein, des propos, et en même temps de s'estimer, de bien s'aimer mutuellement. Ou alors, c'est une sorte de jeu de Raymond Queneau. Parce que, juste après, au milieu de la page 21, Marceline appelle Zazie pour manger, pour le dîner. À table, dit doucement Marceline en apportant la soupière. Zazie, crie-t-elle doucement, à table. Crie-t-elle doucement. Hein, est-ce qu'on peut crier doucement? Bah oui, je le fais comme ça. Zazie. Non, on a l'impression de crier, mais en même temps doucement. Bon, c'est une sorte de contradiction. Alors, vous savez que lorsqu'on utilise deux mots contraires, l'un à côté de l'autre, c'est un procédé qui s'appelle oxymore. Oxymore ou oxymoron avec O-N, hein, de son origine grecque. Mais bon, oxymore, c'est très bien. Alors, on parle de la lumière noire. Et en même temps, ça peut exister. Mais c'est une opposition des termes. Voilà, donc ça peut être aussi un jeu avec ça, qui peut continuer. Par exemple, un peu plus tard, on demande à Zazie est-ce qu'elle a sommeil, et elle répond non en bâillant. C'est-à-dire, elle bâille comme quelqu'un qui a sommeil, mais elle a répondu non. Donc il y a une volonté de contradiction. Hein. Même quand elle est en train de s'endormir, elle dit non. Bon, c'est un jeu là aussi. On reviendra peut-être plus tard sur le thème du sucre. Pour l'instant, on n'a pas encore assez d'informations. Vous verrez que Gabriel boit toujours de la grenadine, du sirop de grenadine avec très peu d'eau. C'est assez étrange. Et le thème du sucre revient de temps en temps de différentes façons. Par exemple, en bas de la page 21, dans ce grand paragraphe du dîner, commentaire du narrateur, donc on a du boudin noir, du foie gras, etc. Et puis un entremets des plus sucrés. Hein, quelque chose de très sucré. Et suivi d'une grenadine au kirsch. Hein, d'habitude, c'est une cerise au kirsch, c'est-à-dire le fruit, mais cette fois, c'est une grenadine, c'est-à-dire du sirop, hein, du sirop extrêmement sucré, avec du kirsch. Alors, pourquoi Gabriel consomme-t-il autant de sucre? Hein, c'est pour l'instant un mystère pour nous. On verra plus tard si on trouve une solution, ou si c'est seulement un élément du personnage, comique, amusant, comme d'autres. À la page 22, donc, Gabriel aborde le thème du coucher. Hein, il faut que Zazie aille se coucher. Bon, ben, elle n'est pas d'accord, et elle va commencer à contester, en quelque sorte, hein, la nécessité d'aller se coucher. En haut de la page 22, « Qui ça, on ?» demande-t-elle. « Eh bien, toi, bien sûr, » répondit Gabriel, tombant dans le piège. Le piège. « À quelle heure tu te couchais là-bas ?»« Ici et là-bas, ça fait deux, j'espère. »« Oui, » dit Gabriel, compréhensif. « C'est pourquoi qu'on me laisse ici ? » C'est pour que ça soit pas comme là-bas, non ? Oui. Tu dis oui comme ça, ou bien tu le penses vraiment ? Gabriel se tourna vers Marceline qui souriait. Tu vois comment ça résonne déjà bien, une mouflette de cet âge ? On se demande pourquoi c'est la peine de les envoyer à l'école. On a ici un raisonnement. Ce raisonnement, élaboré par Zazie, est un raisonnement pour contester la nécessité d'aller se coucher maintenant. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants, des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants. Bon, moi, je connais ça aussi dans ma famille, des enfants qui, lorsqu'ils sont en vacances, par exemple chez leurs grands-parents, protestent en disant que c'est pas comme à la maison, donc on a le droit de se coucher plus tard. C'est presque une banalité. Hein, encore aujourd'hui, des enfants qui raisonnent, hein, c'est-à-dire qui savent bien articuler une question, une mauvaise réponse, et c'est le piège. Piéger les adultes. Bon, que Queneau nous montre ce raisonnement de la part d'une enfant, et évidemment ça donne, comment dire, une image pour l'avenir. Hein, à chaque fois que Zazie va discuter avec un adulte, il y aura toujours cette intelligence de Zazie qui essaye de piéger l'adulte dans son discours. Pourquoi un enfant peut-il piéger un adulte? C'est parce que l'adulte pense que l'enfant n'est pas intelligent. C'est une erreur. Alors bien sûr, l'enfant n'a pas toute la connaissance de l'adulte, ni toute l'intelligence d'ailleurs de l'adulte, mais il a une intelligence. Et une intelligence qui, pour ce qui l'intéresse, hein, et qui le concerne directement, est très très vive, très très rapide. Bon, vous connaissez sans doute ça avec les enfants. Ce thème va servir, puisque par hasard, hein, on parle de l'école, hop, Zazie va rebondir sur le sujet de l'école en disant qu'elle veut être institutrice. Une bonne idée. Et puis là, on va découvrir pourquoi elle veut être institutrice. C'est une moins bonne idée. Et au passage, donc au milieu de la page 22, oui, dit Zazie, je veux être institutrice. Ça n'est pas un mauvais métier, dit doucement Marceline. Il y a la retraite. Elle ajoute à ça automatiquement parce qu'elle connaissait bien la langue française. Retraite mon cul, dit Zazie. Moi, c'est pas pour la retraite que je veux être institutrice. Non, bien sûr, dit Gabriel, on s'en doute. Alors, c'est pourquoi, demanda Zazie. Tu vas nous expliquer ça. Tu ne trouverais pas tout seul, hein. Elle est quand même fortiche, la jeunesse d'aujourd'hui, dit Gabriel à Marceline. Et à Zazie, alors, pourquoi que tu veux l'être, institutrice? Pour faire chier les mômes, répondit Zazie. Ceux qu'auront mon âge dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, toujours des gosses à emmerder. Eh bien, dit Gabriel. Bon, donc cette réponse de Zazie est tout à fait savoureuse, on s'amuse beaucoup à ça, et ça commence quand même assez mal, parce que la réponse, voilà, comment dire, ce que dit Marceline n'est pas très intelligent. Institutrice, c'est bien, il y a la retraite. Vraiment une banalité, presque stupide, de considérer la retraite comme un élément important du travail. Alors pourquoi Marceline répond de cette façon? Eh bien parce que déjà, dans les années 1950, il y a un sentiment de la population, un sentiment à la fois d'envie et en même temps de rejet des fonctionnaires. Les fonctionnaires, ce sont des gens qui ont un emploi garanti par le gouvernement, garanti par l'État, et également une retraite garantie par l'État. Alors que les autres qui travaillent dans des entreprises privées, dans des commerces personnels, hein, comme souvent, eh bien, ils doivent fabriquer leur retraite. Alors aujourd'hui, le problème des retraites est énorme dans beaucoup de pays et de façon très différente de cette époque. Dans les années 1950, la retraite est quelque chose de nouveau et qui est une promesse pour l'avenir. Et en effet, la génération qui constitue maintenant mes grands-parents et mes parents sont les deux générations, peut-être les deux seules générations, qui peuvent vraiment profiter de leur retraite. Alors c'est toujours une discussion en famille, hein, quand je suis en France dans ma famille, eh bien, moi je ne sais pas si je pourrais profiter, entre guillemets, de ma retraite. Parce que la situation de la population, le nombre de personnes âgées, le nombre de personnes qui travaillent, a complètement changé par rapport aux années 50-60 et il n'y a pas assez de gens qui travaillent et qui payent pour financer les retraites d'un très grand nombre de gens qui sont maintenant à la retraite. Donc le système est tout à fait déstabilisé, il n'a pas été bien préparé, il n'a pas été anticipé, et je crois qu'au Japon aussi on a ce genre de problème, avec d'autres problèmes, hein, comme l'enregistrement des informations, qui a créé quelques scandales ici. Donc, il y a la retraite, c'est tout à fait stupide hein, comme expression. Alors, Zazie nous sauve du ridicule hein, avec sa volonté d'emmerder les gosses. Bon, si Zazie se limitait à cette expression hein, de son désir d'emmerder les gosses, ça serait une sorte de sujet qui concerne les enfants. En tant qu'enfant, elle a envie d'embêter les autres enfants quand elle sera adulte. Pourquoi pas? Mais on va voir que c'est plutôt une sorte de nature de Zazie, de nature générale, qui est de vouloir emmerder n'importe qui, tout le monde, même les lecteurs, hein, en fait. Il y a ça aussi. En bas de la page 23, bon, il faut progresser. Les méthodes pédagogiques, c'est ce que dit Gabriel au milieu de la page, ça change, ça va plutôt vers quelque chose de plus gentil, de plus doux, la douceur, la gentillesse. On dit ça dans le journal. Alors, et puis, l'avenir, ça va être autre chose, alors un petit peu de science-fiction, un petit peu de anticipation. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot. L'anticipation est une catégorie d'histoire qui consiste à imaginer l'avenir. Pas tout à fait la même chose que la science-fiction, parce que la science-fiction est quand même basée sur la science. Et on peut faire de la science-fiction avec du passé aussi. Ça arrive, on voit beaucoup de films ou de livres dans ce domaine. Mais l'anticipation est vraiment une imagination de l'avenir où on n'est pas obligé de parler de la science. On peut parler de la société dans 1000 ans ou dans 100 ans, c'est de l'anticipation. Alors on a un peu d'anticipation juste après quand Gabriel dit « Dans 20 ans, il n'y aura plus d'institutrices. Elles seront remplacées par le cinéma, la TV, l'électronique, des trucs comme ça. » C'était aussi écrit dans le journal l'autre jour. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est beaucoup plus que 20 ans après, hein, on est 50 ans après, et il y a en effet la télévision, le cinéma, l'informatique qui remplace l'électronique, l'informatique et l'internet évidemment qui remplace l'électronique. Mais c'était une vision tout à fait légitime. Avec une seule petite différence, Gabriel dit « il n'y aura plus d'institutrices », mais aujourd'hui, des institutrices, il y en a. Il y en a beaucoup, hein, il y en a toujours autant, peut-être. Mais aujourd'hui aussi, il y a des gens qui font de l'anticipation en disant que dans 20 ans, c'est-à-dire dans les années 2030, il n'y aura plus de professeurs, il n'y aura plus d'instituteurs, bon, on verra, hein, mais je suis pas sûr. Hein. À ce moment-là, Zazie répond qu'elle sera astronaute. C'est bien, c'est une bonne idée. Et pourquoi elle sera astronaute? Et là, on a la chute superbe hein, de Zazie. Elle sera astronaute pour aller faire chier les Martiens. En bas de la page 23. Oui, continue Zazie, je serai astronaute pour aller faire chier les Martiens. Donc tout à l'heure, c'était pour emmerder les gosses. Maintenant, c'est pour faire chier les Martiens. C'est-à-dire que chez Zazie, c'est une nature. Que ce soit les enfants, les Martiens ou n'importe quoi, elle va aller les emmerder. Alors, au-delà du comique hein, et des gros mots utilisés, qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un, une personne, dont la nature est d'aller déranger, hein, pour être poli alors, d'aller toujours déranger les autres. C'est-à-dire quelqu'un qui va toujours bousculer, gêner, déranger les autres. Je crois que c'est une volonté, justement, de montrer aux autres qu'ils ont besoin de changer, qu'ils ont besoin de réfléchir, qu'ils ont besoin d'être dérangés dans leur confort, dans leurs habitudes, pour changer. Et en même temps, cela accompagne le thème du changement de la société, qui est un des thèmes principaux de Zazie dans le métro, puisqu'on voit changer complètement la société française. Alors, on le voit très bien dans le film, par exemple, parce que plusieurs fois, dans un café ou dans un restaurant, on est en train de refaire complètement l'intérieur. On enlève des meubles ou bien des décors sur les murs qui sont d'une époque et on apporte des choses plus modernes, avec des couleurs, avec des choses comme ça. Donc ce thème de la transformation de la société est très visible dans le film, mais il est tout à fait présent dans le texte. Louis Malle n'a pas ajouté quelque chose qui évidemment marche bien avec l'image, hein, mais il l'a trouvé dans le texte. Et c'est peut-être Zazie qui est alors non seulement une petite fille, mais en même temps une sorte de allégorie, hein, c'est-à-dire de généralité, qui est la transformation, hein, cette personne ou cette chose qui pousse vers le changement, vers la transformation de la société. Zazie comme allégorie du changement. Que la semaine dernière, hein, quand on a parlé du prénom Zazie, je vous ai dit qu'on pouvait aussi le rapprocher un petit peu du mot zizanie, hein, qui veut dire grand dérangement, changement. Bon, ensuite on propose d'aller se coucher, que Zazie aille se coucher. Marceline l'accompagne dans sa chambre. Et en bas de la page 24 et en haut de la page 25, que fait Gabriel quand il est tranquillement tout seul? Eh bien, donc, il sort sa petite trousse en peau de porc et il va commencer à se faire les mains. Se faire les mains, donc manucure, se manucurer, on peut aussi utiliser le verbe. Il adorait ça, ce qui n'est pas peut-être une chose très courante chez les hommes. Alors bien sûr, vous savez sans doute que plus tard, il sera question de l'homosexualité de Gabriel avec un changement, donc du X transformé en 2S, qui correspond aussi à ce que Zazie a entendu. Hein, Zazie ne connaît pas le mot homosexuel, elle entend homosexuel. Et elle le répète comme ça. Et pendant longtemps, le narrateur... L'auteur, Raymond Queneau, va laisser le doute. Hein, est-ce que Gabriel est homosexuel ou pas homosexuel? Est-ce que Marceline est une femme ou un homme? C'est-à-dire Marcel. Un Marcel qui s'habillerait toujours en Marceline pour ne pas avoir de problème, par exemple, avec Turandot, hein, qui n'aime pas avoir des histoires dans son immeuble. Ce qui veut dire que Gabriel est obligé de cacher son homme sous la forme d'une femme, mais Queneau n'est pas très clair, hein, cela reste assez comme ça, et dans le film, Louis Malle a choisi une actrice, mais maquillée d'une certaine façon, toujours un peu mystérieuse, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, qui fait d'ailleurs de la moto aussi, comme un homme, le doute reste en permanence. Alors, évidemment, on découvre plus tard hein, le vrai métier de Gabrielle, danseuse espagnole, les choses s'accumulent, hein, les informations s'accumulent pour y voir une sorte d'homosexuel, ou de bisexuel, ou de, comment on disait à l'époque, de Proust, antisexuel, hein, inverti, c'est l'idée d'inversion, hein, de changement. Bon, on y reviendra. Évidemment, les informations arrivent petit à petit, hein, très très légèrement comme ça, mais évidemment, si Gabrielle est homosexuelle et danseuse espagnole, cela forme un nouveau contraste, presque oxymore, avec les descriptions du chapitre 1 où Gabrielle apparaît comme un énorme, hein, je vous rappelle, hein, gorille, colosse, hein, donc quelque chose qui est plutôt fortement masculin. Bon, voilà cette contradiction à nouveau dans les termes. Pendant qu'il se manucure, il chante, il chantonne pour lui-même quelques chansons. Ça commence par un refrain obscène, puis les prouesses des trois orfèvres achevées, c'est-à-dire quand il a fini cette chanson. C'est une chanson extrêmement vulgaire, hein, extrêmement obscène, qui s'appelle « Les trois orfèvres ». Vous pouvez trouver les paroles sur Internet. Justement, une des personnes qui était là la semaine dernière m'a apporté une copie de ces paroles. Eh bien, je ne vais pas vous les lire. Hein. Je vous fais passer la page et puis vous regardez comme ça quelques lignes par vous-même. Vous verrez que c'est extrêmement obscène. Obscène, il s'agit évidemment de faire l'amour avec tout et n'importe quoi, hein, l'homme, la femme, le chat, etc. En particulier le chat, hein, puisque le thème du chat sera repris. On reviendra quand même à cette chanson, puisqu'il en sera de nouveau question à la page 53. Hein, donc on n'y va pas maintenant, mais vous pouvez le noter, page 53, où il est question de cette chanson. Donc toujours ici à la page 25, Gabrielle chante pour lui-même, ou siffle pour lui-même, quelques sonneries de l'ancien temps, l'extinction des feux, le salut au drapeau, comme s'il avait été militaire, hein, peut-être, ou bien Caporal Con-Con-Con. Alors, je n'ai pas trouvé de chanson qui s'appelle Caporal Con-Con-Con, mais j'ai trouvé une chanson dans laquelle il est question d'un caporal et, évidemment, du thème du con, hein, qui était dans la littérature classique. Là, c'est pas le gros mot con qu'on traduit en japonais par baka. C'est pas ce con-là, c'est le con classique qui est le nom du sexe féminin. Alors évidemment, on peut pas l'utiliser comme ça facilement dans la conversation. Mais dans la poésie érotique, dans la chanson érotique, dans les œuvres de Sade, hein, il est bien sûr très présent sous sa forme normale, donc de con, C-O-N. Ça veut dire donc que Gabrielle, sous son apparence jusqu'à maintenant élégante et polie, cache quand même un individu qui connaît des chansons fortement obscènes, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, je vous rassure, hein. En tant que japonais, vous ne connaissez pas très bien la population française. Les Français ne connaissent pas tous ces chansons. C'est quand même assez limité. D'ailleurs, moi, je ne connaissais pas cette chanson des Trois Orfèvres. Je l'ai découverte à cette occasion. Bon, Marceline revient et on se demande qu'est-ce qu'on va faire demain. On voit apparaître l'inquiétude de Gabrielle à propos de son sommeil. On ne comprend pas encore très bien pourquoi, hein, parce que on ne sait pas exactement son métier. Alors je dirais que là encore, il y a le procédé, hein, tout à l'heure on parlait d'allusion, anticipation, le procédé du suspense. qu'est-ce que c'est que le suspense? Eh bien, c'est de présenter quelque chose avec insuffisamment d'informations. Donc, on vous dit qu'il va se passer quelque chose, mais on ne vous dit pas quoi. Et on vous donne un tout petit peu d'informations, et vous commencez à vous poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va se passer? Etc. C'est un phénomène tout à fait général. Zazie utilise cette méthode, on a vu tout à l'heure, lorsqu'elle dit « Est-ce que vous savez pourquoi je veux être institutrice ?» Elle ne donne pas la réponse. Et elle demande aux autres de lui demander pourquoi. Hein, c'est-à-dire, elle provoque le suspense et ensuite elle répond « pour emmerder les gosses ». Notre narrateur, plutôt écrivain, Raymond Queneau, nous jette en quelque sorte hein, des personnages. Il nous jette Gabriel, Turandot, Charles, etc., sans les présenter, sans les décrire, sans qu'on connaisse leur histoire. Et petit à petit, on découvre des éléments de leur personnalité. Donc dès le début, on se demande, mais comment il est ce Gabriel? Comment elle est cette Mado, Turandot? Et vraiment, petit à petit, hein, on appelle ça le compte-gouttes. Donner des informations au compte-gouttes, c'est-à-dire on ne vous donne pas toutes les informations dont vous avez besoin, mais comme, vous savez, quand on prépare un médicament, hein, avec un petit compte-gouttes, hein, une goutte, deux gouttes, pas plus, hein, pour l'instant, c'est tout. Alors, comme on découvre Gabriel comme ça, progressivement, hein, au compte-gouttes, on découvre ici, à la page 25, qu'il a absolument besoin de dormir beaucoup, de dormir toute la matinée après son travail pendant la nuit. Et donc il s'inquiète beaucoup sur l'emploi du temps de Zazie le lendemain matin. On arrive même à la proposition presque criminelle, hein, en haut de la page 26, de proposer un soporifique, lui donner un médicament pour dormir et qu'elle dorme jusqu'à midi ou même plus tard. Paraît qu'il y a des suppositoires au poil qui permettent d'obtenir ce résultat. Alors, suppositoire, c'est un médicament que l'on prend par l'anus. On le pousse à l'intérieur et ensuite on le laisse agir à l'intérieur. Alors, on m'a dit qu'au Japon, c'était pas très courant, ce genre de médicament. En France, on l'utilise beaucoup, ou on l'utilisait beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas très bien. On l'utilisait beaucoup, et surtout pour des enfants. Parce que lorsqu'on demande à un enfant de boire un médicament, ou de manger, ou enfin d'avaler, souvent l'enfant refuse. Mais par derrière, il ne peut pas refuser. On pousse et ça glisse à l'intérieur. C'est un suppositoire, donc suppositoire. Suppositoire au poil. Au poil, ça veut dire qui marche bien, qui est facile, qui est pratique. Hein, c'est ça, au poil. Quand quelqu'un dit « Ah oui, cette situation, cette solution, ce travail pour toi, c'est au poil ou au petit poil », ça veut dire que c'est pitali, hein, exactement ce qu'il faut, juste très bien pour la situation. Alors ce suppositoire au poil, qui est assez vulgaire hein, dans sa forme, est justement suivi, encore un contraste, hein, pan 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 fait discrètement Turandot, derrière la porte, sur le bois d'Icel. Le bois d'Icel, vous avez une petite note pour ce Icel, c'est une vieille forme de l'expression démonstrative « celle-ci ». Si vous lisez des textes, je ne sais pas, du Moyen-Âge ou de la Renaissance, vous verrez très souvent ce mot « icelle » qui veut dire « celle-ci » précisément. Hein, donc, Turandot cogne sur la porte, toc toc toc, hein, ou pan pan pan, et le narrateur a choisi le mot « icelle ». Mot donc vieux, archaïque, hein, un peu comme chez Apollinaire, on trouve à la fois des mots anciens, très anciens, et des mots très modernes, très nouveaux, qui forment une sorte de choc, un choc de choc d'époque, un choc de différents temps, qui peut être aussi du changement de temps. Turandot, lui aussi, est contaminé. Et au milieu de la page 26, la verdure a gobé sa grenadine, il s'essuie le bec contre son perchoir, puis prend la parole en ces termes. « tu causes, c'est tout ce que tu sais faire. »« Je cause mon cul, » réplique Turandot vexé. Gabriel interrompt ses travaux et regarde méchamment le visiteur. « Répète un peu, voir ce que t'as dit. » Qui dit « J'ai dit, » dit Turandot, « j'ai dit, je cause mon cul. » Et qu'est-ce que tu insinues par là, si j'ose dire ?« J'insinue que la gosse, qu'elle soit ici, ça me plaît pas. » Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, tu entends « je m'en fous ». Pardon, je t'ai loué ici sans enfant, et maintenant t'en as un sans mon autorisation. Ton autorisation, tu sais où je me la mets ? Je sais, je sais. D'ici à ce que tu me déshonores à causer comme ta nièce, il n'y a pas loin. C'est pas permis d'être aussi inintelligent que toi. Tu sais ce que ça veut dire, inintelligent, espèce de con ? Ça y est, dit Turandot, ça vient. Tu causes, dit la verdure, tu causes, c'est tout ce que tu sais faire. Voilà donc un petit moment hein, assez amusant entre les deux. Donc d'abord c'est Turandot hein, qui dit « je cause mon cul », c'est-à-dire lui aussi est contaminé par le langage de Zazie, et je crois qu'il le fait exprès pour montrer à Gabriel « voilà comment on parle ici maintenant à cause de ta nièce hein, ». Déjà, elle a déjà perverti, elle a déjà sali cette maison par son langage. Gabriel lui dit « répète un peu voir ce que tu as dit », c'est exactement comme à la gare, au chapitre 1, lorsqu'il est insulté par le petit type, hein, et il ne veut pas taper dessus tout de suite, et il lui demande de répéter. C'est d'ailleurs une banalité hein, de faire répéter pour être sûr hein, avant de se battre. Donc le thème, vous avez bien compris, et après le rythme imposé par la verdure, c'est-à-dire la verdure reprend, et après ça dégénère un peu, on va retrouver des « t'énerve pas », ça c'est Marceline, « je ne veux pas d'une petite salope dans ma maison », bon, il l'a repris, et « je t'emmerde », hurle Gabriel, tu entends, je t'emmerde. Alors on est dans l'escalade, hein, ça s'appelle l'escalade, c'est-à-dire le ton monte comme ça, et Gabriel se met en colère, donc il donne un coup de poing sur la table, et là c'est l'enchaînement un peu comique, hein, là encore un peu gag à la façon de Chaplin, c'est-à-dire la table tombe, le truc tombe, la grenadine, le nécessaire de manucure, etc. Ça finit par une porte s'ouvre, c'est Zazie qui est réveillée. Alors je saute la suite hein, qui est moins intéressante avec l'histoire du nécessaire de manucure à remplacer, et on arrive à la fin du chapitre 2, page 29, avec Gabriel qui sort et Marceline qui le rappelle dans l'escalier et qui lui donne quelque chose qu'il a oublié. Et c'est donc la chute du chapitre 2, hein, chute au sens de dernière parole, et qui apporte une information étonnante pour le lecteur. Tu as oublié ton rouge à lèvres. Ah tiens, jusqu'à maintenant on croit qu'il est veilleur de nuit, hein, c'est Zazie qui a dit ça. Bon, et tu as oublié ton rouge à lèvres. Voilà donc comment fonctionne le texte, et ça vous permet, je crois, de mieux préparer la lecture. Beaucoup de parties, presque comme au théâtre, il faut imaginer des acteurs, et quelques commentaires sur la position ou l'attitude des acteurs, et surtout dans le chapitre 2, une porte s'ouvre, une porte se ferme, on entre, on sort, c'est le théâtre de vaudeville. Je pense que vous connaissez le nom de vaudeville, ce genre de théâtre où on entre et on sort en permanence, avec évidemment des histoires ridicules d'amour, d'amant, de mari trompé, caché, etc. Le vaudeville avec toutes ses portes. C'est un des thèmes du vaudeville. Il y a toujours des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Donc, pour le chapitre 3, on le résumera la semaine prochaine. Dans le chapitre 3, on trouvera, pour le résumer un peu, la maison silencieuse le matin. Zazie se promène et découvre les WC, les toilettes, où elle va rester. C'est mieux que le brodo qu'on lui a proposé. Ensuite, elle va sortir. Elle est suivie par Turandot, mais pour se débarrasser de Turandot, elle va appeler au satyre. Donc on retrouve le thème de l'agression d'enfant, et la foule qui s'approche croit tout de suite la parole de l'enfant. Ça aussi, c'est un thème important, puisque parfois, l'enfant ment en accusant un adulte d'agression sexuelle, et c'est très grave, parce qu'il y a comme ça des adultes qui passent des années en prison pour une accusation mensongère d'un enfant. Et parfois, des enfants deviennent adultes et se rétractent. C'est arrivé encore il y a quelques jours en France. Un homme a été relâché et son procès va être refait. Mais il a passé 7 ans en prison pour une agression, un viol qui n'a pas été commis. L'enfant devenu adulte a écrit au juge pour expliquer qu'elle avait tout inventé. Alors, croire à la parole des enfants, ça peut être aussi un grave problème. Donc, on y reviendra la semaine prochaine. Questions, commentaires, une minute, si vous voulez. Non, ça va pour aujourd'hui ? Bien, alors bonne semaine, bonne lecture, chapitre 3, et puis on essaye, on espère, 4 et 5, si j'arrive à accélérer un peu. Pardon. À bientôt.